Coucou, c'est Charlie. Eh bien aujourd'hui, un épisode un peu spécial des lectures érotiques de Charlie. C'est une réédition d'une ancienne lecture érotique à l'époque où je faisais mes lectures sur LSF Radio. Alors, vous entendrez parler d'une troisième partie, mais elle ne sera pas à l'écoute sur ce podcast. À l'époque, sur LSF Radio, je faisais une partie en hystérical littérature, mais pour pouvoir être diffusée sur Deezer, PodCloud, iTunes, etc., etc., je ne fais plus de partie en hystérical littérature. Alors profitez de ces deux extraits et on se retrouve très vite pour de prochains podcasts. Bonne écoute. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie sur LSF Radio ou sur RCV 99 FM. Et oui, comme vous le savez maintenant depuis quelques semaines, l'émission Les Lectures Érotiques de Charlie, eh bien la primeur c'est pour LSF Radio, c'est normal, c'est quand même grâce à LSF que cette émission existe. Et s'il y a des gens qui sont dans la région lilloise et qui ont envie de remplir leur nuit de délicieux mots érotiques qui les réchauffent, eh bien c'est tous les dimanches l'émission érotique. Diffusé tous les dimanches à 1h du matin sur RCV 99 FM. Donc, eh bien voilà, coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Ça fait pas deux fois que je le dis ça déjà ? Ah mais si, c'est ça. T'aurais pas un problème Charlie ? Élémentaire mon cher Watson, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Bon, allez, je vous en ai dévoilé un petit peu trop déjà. Aujourd'hui, je vous lis des extraits d'un livre qui s'appelle « La chienne des Baskerville » d'Éric Vernac, et qui est une revisitation, ça se dit pas, hein, qui, bah, Éric Vernac revisite le fameux duo Sherlock Holmes-John Watson de Sir Arthur Conan Doyle, mais version beaucoup plus olé olé. Alors, pour vous procurer ce livre, c'est où ? Eh bien, c'est les éditions Sexy by La Musardine. Donc, c'est sur leur site sexy-musardine.com. Ben, écoutez, vous allez découvrir en quoi c'est beaucoup plus olé olé. En fait, je vais me taire et on va commencer la lecture. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous êtes prêtes, vous êtes prêts ? Alors c'est parti, La chienne des Baskerville de Éric Vernac, publié aux éditions Sexy by La Musardine. Chapitre 1, Mon ami Sherfresh Holmes. Un épais brouillard enveloppait Londres en cette matinée maussade du lundi 18 novembre 1991. Mon ami Monsieur Sherfresh Holmes était d'humeur massacrante. Deux mois déjà qu'il piétinait sur une épineuse affaire de piraterie informatique. Il avait l'air excédé qu'il est légitime d'arborer après plusieurs heures de recherche sur une grille de mots croisés récalcitrantes. Sherfresh Holmes était détective privé, comme son grand-père Sherlock, et il habitait comme lui au 221B Baker Street, un grand appartement que je partageais avec lui, à l'instar de mon aïeul John Watson. Comme celui-ci d'ailleurs, je suis médecin, mais je n'ai pas opté pour la médecine générale. Je reviendrai en temps utile sur ma spécialité, encore rare de nos jours, même à Londres. Tout lecteur attentif pourra le remarquer. Une espèce de fatalité familiale a voulu que nous reproduisions le mode de vie et les relations amicales étroites qui furent celles de nos grands-parents, puis de nos parents. Lorsque John Watson quitta le légendaire Sherlock pour épouser ma grand-mère, le grand détective termina ses jours en solitaire. À l'ouverture de son testament, on apprit avec surprise qu'il avait eu un fils, né le jour de l'armistice de la Grande Guerre et reconnu in extremis. Cet enfant grandit, marcha sur les traces de son père avec l'aide de son oncle Mycroft, qui s'était rendu acquéreur à la mort de Sherlock de l'appartement du 221B Baker Street. À la suite d'un voyage à Bombay, effectué sur les instances de l'Intelligence Service, il épousa en 1940 une jeune indienne qui, 10 ans plus tard, lui donna un fils baptisé Sherfresh. Le fils aîné du docteur Watson était étudiant en médecine quand il rencontra le fils de Sherlock Holmes. L'évocation des exploits de leur père en fit très vite deux amis intimes. Avant-guerre, ils cohabitèrent ainsi à Baker Street. Plus tard, mes parents émigrèrent en lointaine banlieue, à Hill Street, mais ne rompirent pas le contact avec les Holmes. Pour ma part, je connais Sherfresh depuis ma naissance, en 1961. Il est de 9 ans plus âgé que moi et s'était déjà lancé dans une jolie carrière de détective quand j'atteignis l'âge de la fac. Habitant loin du centre-ville, j'aurais dû me résoudre à louer une chambre à prix d'or si Sherfresh ne m'avait pas proposé de partager, à Baker Street, le logis trop vaste pour un garçon solitaire comme lui. Il y a donc une douzaine d'années que nous vivons ensemble, comme l'avaient fait nos grands-parents. Nous sommes tous deux célibataires et nos deux plaques de cuivre sont désormais juxtaposées au portail du 221B. La seule différence notable, mais est-elle bien importante, est que le docteur est aujourd'hui une femme. Je m'appelle Pénélope Watson. Il convient, pour couper court au commérage, de mettre les choses au point. J'ai 30 ans, de longs cheveux au burn et des yeux verts pommes qui ont fait chavirer bien des cœurs, une taille fine, de longues jambes et une paire de seins que je n'ai pas honte d'exposer sur les plages quand je vais en vacances sur la Côte d'Azur française ou sur la Costa del Sol espagnole. J'aime faire l'amour. Jusqu'à maintenant, j'ai eu davantage d'amants en une année que la plupart de mes compatriotes pendant toute leur vie. Il faut dire que j'apprécie le changement et que je privilégie l'intensité plutôt que la longévité. Mais qu'il soit bien clair, une fois pour toutes, que je n'ai jamais couché avec Cherfresh Holmes. Au reste, ni lui ni moi n'en éprouvons le besoin. Nous sommes amis, un point c'est tout. J'aimerais donc que le lecteur comprenne qu'il n'y avait pas la moindre équivoque dans l'occupation à laquelle je me livrais ce matin-là, accroupi devant mon ami détective qui était lui-même renversé dans son rocking chair, la tête en arrière, les mains sur les accoudoirs et la braguette béante. À savoir, cette caresse bucogénitale que nous autres médecins désignons sous le nom de fellation. Les lecteurs de Sir Arthur Conan Doyle se rappellent que pour parvenir à un point de concentration maximum de ses facultés cérébrales, Sherlock Holmes bourrait une pipe de bruyère du meilleur tabac et la fumait avec acharnement. John Watson se plaignait avec une certaine amertume de l'atmosphère enfumée de l'appartement quand Sherlock était sur le point de mener à son terme une enquête. Lorsque j'emménageais au 221B, je n'eus aucun mal, pour ma part, à persuader son petit-fils de renoncer à l'usage funeste du tabac. Je lui expliquais qu'il y avait d'autres moyens, beaucoup moins nocifs, de parvenir à cet état de relaxation idéal qui permettait d'aiguiser ses capacités jusqu'à l'élucidation des mystères les plus embrouillés. La plus simple de ces techniques étant encore de se plonger dans un état de béatitude sexuelle. Non pas de copuler, activité qui exige la mobilisation dynamique du système musculaire et l'éveil de tous les sens, mais de se laisser faire, sans y penser. Les geishas nippones et les masseuses thaïlandaises connaissent les techniques qui conduisent leurs patients à cet état de nirvana, déconnecté de toute réalité matérielle, et qui favorise donc l'activité la plus libre, la plus fébrile et la plus intense du cerveau. J'expliquais ainsi à Cherfresh Holmes qu'il avait tout intérêt, dans les cas extrêmes, à se faire branler et surtout à se faire sucer pendant qu'il se livrait aux puissances déduction dont il avait le secret. L'essentiel était cependant qu'aucune pulsion affective, qu'aucun sentiment amoureux ne vint troubler cet exercice. Pour Cherfresh, on pouvait être tranquille. Je n'y avais jamais connu de fiancée ni de maîtresse et il n'avait aucune conversation sur le sujet des femmes. Alors comment procéder ? Une con girl se déplaçant à domicile posait quelques problèmes. Je n'évoque pas en l'occurrence la question financière. Les honoraires du détective lui eussent permis d'inclure à titre de frais le prix d'une passe, fût-elle de luxe. C'était plutôt affaire de technique. Lorsqu'il advenait à Holmes de se sentir à deux doigts de la solution, le temps de procéder au rabattage téléphonique, il n'était pas dit que l'étahir arrivât au 221B dans les minutes suivantes. Nous en étions là quand Holmes eut une idée lumineuse à sa façon. Au fait, Watson, à l'instar de nos aïeux, nous nous appelions par notre nom de famille. Au fait, pourquoi pas vous ?
Moi ?
Que voulez-vous dire, Holmes ? Pas d'enfantillage, Watson. Votre vie amoureuse est assez tumultueuse pour que vous connaissiez, mieux encore que les Asiatiques dont vous me vantez les talents, les techniques susceptibles d'apaiser l'énergie masculine.
Ma foi !
Eh bien, c'est entendu. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a chez soi ? Je compte sur vous dans les cas difficiles, n'est-ce pas ? Vous savez fort bien, docteur, que je ne tirerai aucun avantage déloyal de cette collaboration, dont je vous suis par avance reconnaissant. Passez-moi l'expression, j'étais soufflé. Le ton était sans réplique, l'affaire classée, et je ne trouvais pas les mots pour protester. D'ailleurs, c'était bien ma faute. N'avais-je pas de moi-même, par une démarche spontanée, mis cette idée dans la tête de mon ami ? Ainsi commença notre association dans les enquêtes criminelles. Lorsque Holmes était dans une impasse, il m'appelait d'urgence, s'installait dans son fauteuil à bascule, ouvrait sa braguette, sortait sa verge, fermait les yeux, et je le suçais mieux qu'une courtisane sacrée de Babylone n'aurait pu le faire. Dans l'ordre de la sémantique, Cherfresh Holmes restait fidèle à son grand-père. il n'avait abandonné l'usage de la pipe sous la forme tabagique que pour l'adopter sous la forme érotique. Ce lundi matin donc, comme toujours dans les cas d'urgence, je lui taillais consciencieusement une de ces pipes miraculeuses qui ont acquis une importance décisive, quoique occulte, dans l'avancée de la science criminologiste britannique. Il faut que j'ouvre ici une parenthèse pour vous parler du pénis de Sherfresh Holmes. Sachez tout d'abord qu'il est d'une longueur inaccoutumée. Ah, croyez-moi, celle qui lui fera gorge profonde n'est pas encore née. Non seulement son sexe est long, mais encore il est mince, effilé, recourbé comme un sabre de samouraï. Sa peau est mate, presque cuivrée. Je me suis souvent demandé si Sherfresh tenait cette particularité de sa mère indienne. Le gland est triangulaire, un peu comme la tête d'un serpent, pointu, d'un rose saumon des plus plaisants. Toujours enfermé à l'état normal dans le fourreau de son prépuce, il n'en sort que par manipulation manuelle et se révèle alors d'une sensibilité extraordinaire. Rétif au contact des doigts, il ne supporte que l'hommage d'une langue précautionneuse. Aussi, quand je dois exécuter ma fellation, commençais-je par lécher le bel engin sur toute sa longueur, avant de consacrer l'activité de ma langue aux superbes testicules du grand détective. À travers leur peau très fine et dépourvue de poils, je fais ainsi bouger ces couilles ovoïdes, dont la forme m'a toujours semblé exceptionnelle. Je n'en ai jamais rencontré de telles chez aucun de mes amants. Ne sont-elles pas très allongées, comme deux grandes amandes, et en même temps, dures comme du bois? Je tiens ici à répéter que mes relations avec Sherfresh Holmes sont purement professionnelles et amicales. Il n'a jamais eu à mon égard le moindre geste déplacé, et nous n'avons jamais eu de rapport sexuel, génital, of course. Je ne me montre pas nue à lui. Il n'a jamais vu mes seins ni mes jambes plus haut que mes genoux. Je ne l'ai jamais embrassé sur la bouche. Je n'ai jamais dormi dans son lit. Il n'a jamais tenté de me baiser. En réalité, ma conviction profonde est que la superbe pine de Holmes n'a jamais pénétré un vagin. Je ne lui connais aucune liaison amoureuse. Et si d'aventure il s'est abandonné parfois au charme populaire d'une prostituée ou d'une masseuse de Soho, ses héritières des gourgandines et des putains de Whitechapel contemporaines de son grand-père, je gage qu'il s'est contenté de se faire masturber ou sucer son magnifique instrument. Ne me demandez pas si j'ai jamais songé à me faire sauter par lui. La morphologie génitale si particulière de Sherfresh est sans conteste de nature à combler une amoureuse et surtout une curieuse. Mais j'ai toujours réussi à réfréner cette curiosité-là. Un pressentiment me soufflait que le statu quo entre nous était préférable à tout écart. C'est aussi pourquoi j'exerçais ma fonction comme un sacerdoce. Je ne veux pas dire que mes fellations sur la personne de Sherfresh ressemblaient à une auscultation médicale, mais elles se réduisaient au strict nécessaire. Quand je suis au lit avec un garçon qui me plaît, ce qui est d'ailleurs un pléonasme, je n'ai pas l'habitude d'épargner ma peine. Je suis ce qu'il est convenu d'appeler une bonne affaire, voire une sacrée salope. Je ne me contente pas de sucer mon partenaire, je le gobe, je le mange, je le déguste, je le polis avec ma langue, je fouille les recoins, je le taquine partout, je le lèche dessus, je le lèche dessous, je mordille son prépuce, j'enfourne toute la bite, j'aspire le gland, je le serre entre mes lèvres, je laisse libre cours à mes envies et à mon imagination. Le tout sans cesser d'avoir les mains actives pour mieux l'exciter, lui caresser le ventre, lui pincer les seins, lui tripoter les couilles, and so on. Rien de tel avec Sherfresh Holmes. Lui, je le prends dans ma bouche, je le soumets à un très lent va-et-vient. Je ne permets aucune fantaisie de langue. Je tiens sa pine serrée dans ma main gauche, ses bourses pressées dans ma main droite. Ma bouche descend, remonte, descend, remonte, mais sans précipitation et sans passion. Il faut avant tout que cette pipe dure, qu'elle dure longtemps. Le temps pour Holmes de rassembler tous les éléments de l'affaire et de les comparer, puis d'opérer une de ces déductions géniales dont sa famille a le secret. Je ne suis pas peu fière, je l'avoue, d'avoir contribué ainsi par le travail de ma bouche à quelques-unes des plus grandes trouvailles de cette fin de siècle. Je me considère parfois en souriant comme une suceuse plus forte que Scotland Yard. Mais Revenons à ce lundi matin où Holmes, séchant sur une affaire des logiciels dérobés au Foreign Office, dans le cabinet même du ministre, j'offrais à sa superbe bite un bain de salive réconfortant et un massage irrésistible entre mes lèvres. Mon ami semblait apprécier la caresse. Voilà, c'était le premier extrait de La Chienne des Baskerville de Éric Vernac, publié aux éditions Sexy by La Musardine. Donc, comme vous le voyez, la tradition est respectée. On a Holmes, on a Watson, sauf que Watson est une femme et que Holmes ne bourre plus sa pipe de bruyère et pour fumer du tabac. Mais eh bien écoutez, c'est Pénélope Watson qui lui taille une magistrale pipe pour l'aider à avoir l'éclair de génie qui va lui permettre de résoudre ses enquêtes. C'est pas mal hein, comme idée. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve ça... Voilà, il y a de l'humour. C'est bien foutu quand même. Hein. Ah, ils sont bons. Ils sont bons chez la Musardine pour dégoter les textes qui vont bien. Merci Éric Vernac. Bon, mais je vous propose une petite pause et on revient de suite pour un deuxième extrait un peu plus hot. A tout de suite sur LSF Radio ou sur RCV 99 FM si vous êtes dimanche, qu'il est tard et que ma voix berce vos nuits. A tout de suite. Recoucou, c'est Charlie, de retour sur LSF Radio ou sur RCV 99 FM si vous m'écoutez le dimanche tard dans la nuit. Alors, on en était où ? Eh bien, vous avez fait la connaissance avec les petits-enfants de Sherlock Holmes et du docteur John Watson, à savoir Cherfresh Holmes et Penelope Watson. Donc, ils sont sur les traces de leurs grands-parents. Cherfresh Holmes est détective. Penelope Watson est docteur, un docteur bien particulier, mais ça pour le savoir, je garde un peu de mystère, il faut lire La Chienne des Baskerville de Éric Vernac, publié aux éditions Sexy by La Musardine. Et donc ils vivent ensemble au 221B Baker Street, la fameuse adresse de Sherlock Holmes. Mais, dans leur relation strictement amicale et professionnelle, eh ben, Watson est dévié au génie de Holmes, hein, à son sens aigu de l'élucidation et de la déduction, et pour ce faire, pour l'aider, eh bien, lui taille des pipes magistrales pour l'aider à débloquer les solutions quand ça coince un peu. Ben oui, au lieu de fumer une pipe, il se fait tailler une pipe. On reste dans l'idée. Hein. Donc... On continue la suite de cette enquête, donc j'ai un peu sauté le chapitre 2, et je peux pas tout vous lire, hein. Je vous lirai volontiers des intégrales, mais j'ai pas le temps. donc en fait, voilà, on a proposé à Holmes et Watson une affaire à Baskerville, parce qu'il se trouve qu'à Baskerville, il y a des disparitions mystérieuses de jeunes femmes qui ont entre 14 et 18 ans, en général assez jolies, et elles ont disparu, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc Holmes et Watson doivent résoudre cette affaire. Mais comme Holmes est occupé par une autre affaire épineuse, il envoie Watson toute seule pour commencer cette enquête. Donc voilà, on en est là à peu près. Le mieux, c'est que je continue à vous lire et vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, nous sommes au chapitre 3, Les Seigneurs de Baskerville. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? On ouvre ses oreilles et on y va. Je passais la soirée à boucler mes bagages, car j'étais attendu le lendemain au château des Baskerville. Le mardi, ayant expédié mes consultations du matin et annulé celles des prochains jours, je pris en compagnie de Holmes un déjeuner servi par la plantureuse Mildred. Mon ami semblait préoccupé, ne daignant pas jeter le moindre regard oblique à la poitrine rebondie de notre jeune gouvernante. Lorsque je m'inquiétais de ses soucis, il éluda mes questions avec désinvolture. J'en conclus que cette histoire d'espionnage l'obsédait. Qu'Intelligence Service et CIA s'emberlificotaient déjà dans son cerveau. En début d'après-midi, je quittais Londres au volant de ma vieille Triomphe. Il pleuvait des hallebardes et la route fut monotone. 3 heures plus tard, j'étais dans le Devonshire et bientôt je vis se découper la dure silhouette médiévale du château des Baskerville. Je me garai dans la cour d'honneur, où un majordome stylé courut m'accueillir avec un immense parapluie à la mode d'antan. Il s'appelait James, of course. Il me guida entre les flaques bourbeuses jusqu'au perron et m'introduisit dans le grand hall. C'est là que je fis la connaissance de Sir Roderick, un homme mince, de haute taille, vêtu d'un élégant costume de tweed. Il n'avait pas atteint la trentaine, et la sombre intensité de son regard contrastait avec la gaucherie dégingandée de sa démarche. Il m'entraîna avec lui pour me faire les honneurs de sa modeste demeure. Dès que nous approchâmes du monumental escalier, j'aperçus à mi-hauteur un étonnant tableau qui attira ma curiosité. C'était le portrait en pied, grandeur nature, d'une très belle femme brune, nue comme une déesse de l'Olympe. Ses cheveux tirés en arrière étaient réunis par un bandeau écarlate, formant une longue tresse qui revenait par-dessus son épaule jusqu'à son arrogante poitrine. D'un geste nonchalant, sa main gauche était posée sur son pubis. On avait sans doute voulu la représenter en Diane Chasseresse, car elle était ceinte d'un carquois et sa main droite tenait une sorte de cravache. Bottée de cuir, elle foulait au pied une pièce de soie rouge. Au majeur de sa main droite, un éclair lumineux signalait la présence d'une pierre rare, un diamant sans doute. Mais surtout, c'étaient ses yeux noirs, au regard de braise, d'une incroyable ironie qui donnait tout son prix au portrait. Je n'eus pas le temps de contempler davantage cette toile singulière. Son modèle, en chair et en os, était en train de descendre l'escalier. « Docteur Watson, je vous présente ma sœur, Lady Barbara Baskerville. »« My God !» laissai-je échapper. « Quelle ressemblance étonnante, milady !» Je m'extasiais sur le talent du peintre qu'il avait si bien représenté, ignorant encore que cette toile datait du XVIIIe siècle et que son modèle était l'ancêtre de la Barbara qui m'accueillait. Celle-ci ne tint pas compte de ma méprise. « Oui, on me l'a déjà dit. C'est ma bisaïeule, vous savez. Comme vous le voyez, » ajouta-t-elle en levant la main droite. « Je n'ai pas seulement hérité de son prénom, comme toutes les filles aînées de la dynastie, mais aussi de son bijou favori, le diamant des Baskerville. » « Admirable ! Mais dites-moi, milady, était-il d'usage dans la noblesse du Devonshire de se faire peindre dans le plus simple appareil ?»« Juste ciel, certes non ! Lady Barbara était une personne extraordinaire, qui bravait tous les préjugés. » On peut dire qu'elle a laissé un souvenir vivace dans ce comté, n'est-ce pas, mon cher frère ? Le docteur Watson me semble épuisé par son voyage. Nous aurons tout le temps d'évoquer plus tard ces vieilles histoires, Barbara. Bien, bien, nous verrons au dîner, Roddy. Sur ce, Sir Roderick m'attrapa par le coude et m'emmena jusqu'au premier étage où il me conduisit jusqu'à la chambre rose. Le diligent James y avait déjà déposé mes bagages. J'espère que vous trouverez cet endroit confortable, docteur. « Je vous en prie, appelez-moi Pénélope. Oh my God, je suis charmée. C'est très aimable à vous et je serais honorée si vous m'appeliez Roderick. »« Entendu, Roderick. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre une douche. Je me sentirai mieux pour le dîner. »« C'est parfait. Désirez-vous que je vous envoie un valet de chambre pour vous aider ?»« Fichtre, comme il y allait. Après tout, la proposition, si incongrue fut-elle, n'était pas pour me déplaire. » Les mœurs de l'aristocratie avaient du bon. J'acceptai, et 5 minutes plus tard, on frappa à ma porte. Un vieillard voûté fit son entrée. « Je m'appelle Mortimer, pour vous servir, madame. »« Eh bien, Mortimer, commencez par me faire couler un bain. » L'homme obéit. Je n'étais pas pour rien l'ami et la collaboratrice de cher Fresh Holmes. Il ne fallait pas être grand détective pour s'apercevoir que la tignasse blanche et les moustaches du vieux serviteur étaient des postiches. Sous son gilet rayé et son pantalon tire-bouchonné, il s'agissait bien de Sir Roderick en personne, venu, je l'aurais parié, jouer les voyeurs et les peloteurs. Qu'à cela ne tienne, le tour m'amusait. Je dirais même plus, il m'émoustillait. Après tout, Roddy était fort bel homme, et, ne se sachant pas reconnu, il me laissait maîtresse du jeu. Je m'efforçais d'emprunter le ton le plus aristocratique qui fût. « Et maintenant, Mortimer, venez m'aider à me déshabiller. » À genoux, l'imposteur délassa mes bottines, me déchaussa avec de multiples précautions, puis il se releva, se mit en devoir de déboutonner mon chemisier et de déboucler la ceinture de mon jean. Il passa derrière moi pour me débarrasser respectueusement du chemisier. Ensuite, je sentis ses mains trembler, hésitantes. Je choisis de le provoquer. « Eh bien, qu'attendez-vous pour me dégrafer ?» Il entreprit alors très vite de m'enlever mon soutien-gorge, qu'il déposa avec soin sur le lit. Puis il fit de même avec mon jean, et je me retrouvai en petite culotte. Il gardait les yeux baissés en me jetant de petits regards en coin du plus haut comique. Jouissant de mon effet, je me dirigeais vers la salle de bain. Comme il restait sur place, pétrifié, je le rabrouais. « Eh bien, ne restez pas planté là, j'ai encore besoin de vous !» Devant la baignoire fumante, je le fixais d'un œil effronté. « Achevez de me déshabiller, Mortimer !» Le faux vieillard s'agenouilla. Il allait avancer les mains quand je le stoppai net. « Je vous interdis cependant d'utiliser vos mains. Vous les avez par trop baladeuses. Mais madame, retirez-la-moi avec vos dents, nigo. » Le jeu prenait une allure piquante. J'avais reconnu Sir Roderick, mais lui, se savait-il reconnu? Pensait-il que je m'amusais aux dépens d'un vieux serviteur, auquel cas il devait me trouver bien perverse, ou bien que je lui faisais des avances à lui? Je balançais entre ces deux hypothèses, tandis qu'il s'acquittait tant bien que mal de sa tâche ardue, l'élastique de mon petit slip noir entre les dents, ses lèvres tremblantes frôlant mes hanches, mes cuisses, mes mollets, avant d'oser déposer un baiser sur mes pieds. « Vous êtes bien stylé, Mortimer. À votre service, madame. J'y compte bien. Ne bougez pas, j'aurai encore besoin de vous. » Il prit la position impassible du valet, tandis que j'entrais dans la baignoire en me déhanchant, tournant sur moi-même pour qu'il ne perde rien de mes fesses, du doux balancement de mes seins et bien sûr, de la touffe luxuriante qui, de l'avis majoritaire de mes amants, constitue mon plus bel attrait caché. Je m'installai dans la baignoire de cuivre en prenant les poses les plus lascives, de façon à ce que le prétendu Mortimer fût sur des charbons ardents. Je me cambrais, faisant ressortir ma poitrine, dardant ses pointes brunes vers le ciel. Suggestive comme une stripteaseuse de seau, je me caressais les cuisses. Les yeux mi-clos, feignant d'avoir oublié sa présence, je laissais même ma main s'égarer dans mon entrejambe. Au bout de quelques minutes, une bosse caractéristique à travers le tissu sombre soulignait la braguette de mon faux valet. Je le regardais droit dans les yeux. « Mais vous bandez, Mortimer ? Pardonnez-moi. Je ne vous pardonnerai qu'à une condition, que vous m'obéissiez. Débraguettez-vous et sortez ce qui vous sert de queue. » Il s'exécuta. Sans un mot, je détaillai l'engin qui était de belle taille et de diamètre intéressant. Sa peau était rose comme celle d'un bébé, entrelacée d'un réseau de veines bleutées. Le gland, à demi sorti de sa cachette, me sembla d'un rose plus foncé et luisant de désir. Une goutte translucide perlait déjà au méa. Je pris le ton le plus désinvolte qui fût pour lui ordonner. « Branlez-vous !» La verge de Roderick accueillit cet ordre avec un sursaut. Aucun doute, je venais d'aiguillonner son désir. Il n'eut pas la moindre hésitation, la saisit à pleine main et, tirant en arrière le prépuce, mit à jour le gland tout entier, museau palpitant et bavant. Puis il le recouvrit en ramenant la main vers l'avant et recommença ce va-et-vient 10 fois, 100 fois et sa face congestionnée me permit de penser que je ne laissais pas le bougre indifférent. Pour mieux le provoquer, je me caressais d'un doigt nonchalant les pointes des seins et j'ouvris les cuisses pour qu'il puisse apercevoir sous ma fourrée noire un peu de ma chatte rose. Il était à deux doigts d'exploser. Non sans malignité, je lui intimai de cesser cette obscène activité. Il s'exécuta à regret, mais je le rassurai sans attendre. « Approchez, Mortimer, j'ai envie de m'amuser avec ce beau joujou. » Je lui pris d'abord le sexe entre le pouce et l'index, m'amusant à promener mes doigts sur son gland glissant de lubrification, à lui taquiner le frein par-dessous. Puis j'empoignais sa queue bandante et lui donnais quelques secousses, tandis que ma main gauche s'introduisait dans sa braguette, atteignant ses couilles avec d'autant plus de facilité que, pour singer sans doute le valet un peu rustre, il ne portait pas de slip sous son pantalon. Je serrai avec chaleur les deux orphelines, puis leur octroyai un massage à ma façon, sans cesser de branler la bite gonflée à éclater. Mon patient avait les yeux fixés sur mes seins, qui évoluaient au rythme de mon activité. D'une alerte rotation du buste, je m'arrangeais pour amplifier ces flottements et tremblements lascifs qui ont le don d'exciter les hommes. Ainsi, titillé et branlé, le pseudo-Mortimer haletait. Je le tirai par la queue pour qu'il s'approche davantage de la baignoire. Ma main gauche s'avança encore, par-dessous les bourses, dans ce recoin obscur et chaud de l'entrecuisse. Mais elle n'eut pas le temps de poursuivre plus avant son exploration. Un gémissement plus profond de mon masturbé m'avertit que mes efforts allaient très vite maintenant être couronnés de succès. Alors, sans relâcher son étreinte, ma main droite acheva de branler d'un mouvement ample, de la racine au gland, le sexe turgescent, tandis que de la gauche, du bout des ongles, stimulait les couilles durcies. Il eut un cri étouffé lorsque son sperme jaillit, comme l'eau d'un tuyau d'arrosage sur lequel on aurait marché avant de la libérer d'un coup. 3, 4, 5 giclées fusèrent, rejoignant l'eau de la baignoire. Son foutre ne se mélangeait pas à l'eau. Il formait de longues traînées blanchâtres, des volutes effilochées, semblables à la chevelure blonde de la noyée dans la nuit du chasseur. C'était bon, Roderick ?
Sans aucun doute, mon hôte avait apprécié ma dextérité. Il était groggy, la perruque de travers et la moustache à moitié décollée. Il ne manifesta aucune surprise d'avoir été reconnu, comme si d'ailleurs il s'était attendu d'emblée à cette issue.
Cependant, je ne voulais pas perdre l'avantage que j'avais acquis. Je me levai dans la baignoire et gardai un ton autoritaire pour lui commander. « Ce n'est pas tout cela, mon ami. Qu'attendez-vous pour me savonner ?»
Sir Roderick balbutia en essayant de remettre au fourreau sa verge ramollie. Je l'interrompis d'un « Non, non ! Restez comme vous êtes !»
Et avec quelques « Oh, Pénélope !» il s'arma d'un gant de toilette pour me frotter les épaules et le dos. Je me retournai alors et il se chargea de mon derrière et de mes jambes. Mais il se contentait d'effleurer, comme s'il craignait de m'offenser. Je fis mine de me fâcher. «
Vous êtes paresseux, Roderick.
Ne vous contentez pas de me nettoyer les fesses. Occupez-vous aussi de la raie qui les sépare. Allons mieux que ça, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au petit trou !»
Enfin, il s'enhardit et se mit à me savonner l'anus du bout de l'index que je sentais pointer à travers le gant de toilette.
Ça va devenir encore plus chaud, mais,
eh oui, c'est le moment de faire une petite pause. Moi aussi, je joue avec votre excitation, chaud-froid. Allez, on fait un petit peu retomber la pression, on profite du bon son qui va passer, qu'on soit sur LSF Radio ou sur RCV 99 FM, la programmation musicale est bonne. Et puis moi, je vais en profiter pour me préparer pour la troisième et dernière partie qui va être en mode hystéricole. Alors, à tout de suite, les chéris, ne quittez pas, je reviens.